La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau avec Laure Boyer, qui est ingénieure au MEDES, l'Institut de médecine et de physiologie spatiale. Nous avons beaucoup parlé la semaine dernière du problème de la santé des astronautes et du suivi qui était fait. Et cette semaine, nous allons parler d'une manière un peu plus spécifique de missions, par exemple la mission Alpha, qui est la mission à laquelle participait Thomas Pesquet, et puis d'autres missions futures, des expériences qui ont été faites et qui sont prévues pour l'avenir. Donc Laure, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la mission Alpha et aussi de l'expérience pilote, ce qui concerne les activités cérébrales, je crois, des astronautes, de Thomas Pesquet en particulier?
Oui, avec plaisir. Alors j'ai eu la grande chance de participer à la mission Alpha, qui était la mission de Thomas Pesquet, sa dernière mission, et notamment sur l'expérience pilote. Alors il faut savoir que pour cette mission Alpha, la France a développé une douzaine de nouvelles expériences, et pilote en faisait partie. Donc moi j'ai eu la chance d'être opératrice spatiale sur l'expérience pilote, c'est-à-dire la personne en charge de la coordination entre les équipes scientifiques qui, eux, développent l'expérience et ont la compétence technique et scientifique autour des neurosciences, qui se posent les questions. Et finalement l'ISS et Thomas Pesquet qui sont notre laboratoire. Et Thomas Pesquet, notre opérateur, sur ces questions-là. Donc pilote, c'est une expérience de neurosciences. L'idée, c'est qu'elle vise à regarder comment le cerveau va coordonner les informations visuelles et les sensations tactiles de son corps en l'absence de gravité. Parce qu'il faut imaginer que quand tu enlèves la gravité, tu te retrouves à perdre ta notion de qu'est-ce qui est le haut, qu'est-ce qui est le bas, parce que tu ressens pas le sol sous tes pieds, parce que tu n'as pas tous tes gravitorécepteurs du genre dans l'estomac, la nourriture qui te tombe vers le bas, etc. Donc il y a des modifications dans la capacité à manipuler quelque chose précisément, à vouloir l'amener là où tu veux, etc. Donc l'expérience pilote, c'était assez ludique, dans le sens où ça prenait la forme d'un jeu vidéo dans un casque de réalité virtuelle.
Ah bon ?
Mais ce n'était pas pour autant facile du tout. Et donc, ça se présentait sous la forme où Thomas, il portait le casque de réalité virtuelle et il avait dans sa main un bras de robot à retour d'effort. Donc, c'est-à-dire, il ressent dans sa main si, avec le robot, il rentre en collision avec quelque chose, par exemple. Et l'idée, c'était qu'il devait effectuer une tâche de capture d'un cargo avec le bras de robot.
Capture d'un cargo ?
Ouais, un cargo, par exemple, un ravitaillement, un cargo de ravitaillement qui arriverait sur la station. C'est déjà comme ça que ça se passe.
D'accord.
Aujourd'hui, les astronautes, ils ont ce qu'on appelle le Canadarm, qui est un bras robotique développé par le Canada, qui vient attraper le cargo. Mais c'est les astronautes qui guident ce bras de robot pour venir attraper le cargo. Apparemment, c'est une tâche extrêmement difficile. Les astronautes, ils sont formés au sol.
Mais le cargo, il est apporté par une navette ?
Voilà.
Au départ,
c'est
et
ça.
Et ensuite, il est laissé par la navette et c'est les astronautes
qui l'attrapent et qui viennent le docker sur la station, ouais, sur un port dédié.
D'accord.
Mais cette tâche, apparemment, est extrêmement fine pour en manipulation. Aujourd'hui, il y a deux joysticks, un joystick qui va manipuler les rotations, hein, qui va manipuler les translations, et c'est l'astronaute qui navigue à vue et qui vient attraper le cargo et le docker. Donc là, l'idée de pilote, c'était de tester des nouvelles stratégies, des techniques innovantes pour contrôler ce bras de robot et des positions de vue différentes pour voir si on pouvait aider l'astronaute à optimiser une station de pilotage.
Eh bien, je pense que ces études du cerveau, c'est utile pour mieux comprendre d'une manière générale, pour les neurosciences, mieux comprendre même pour les terriens, finalement.
Exactement. Alors, c'est souvent, c'est même presque toujours le cas, l'idée de ces recherches qu'on fait dans l'ISS, ça a des retombées terrestres directes, parce que, voilà, en comprenant comment le cerveau va utiliser la gravité ou l'absence de gravité, on a une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau sur Terre. Et là, par exemple, on a des applications sur... on parle de chirurgie faite à distance, par exemple, avec des bras de robot. Voilà, on a des nouvelles informations sur comment on peut avoir une motricité fine, etc.
Et est-ce que ça continue actuellement ou c'est terminé ? Est-ce que vous avez tous vos résultats ou vous avez encore du travail sur cette mission Alpha ?
En fait, les expériences de la mission Alpha ont pour certaines terminé avec Thomas Pesquet et d'autres se poursuivent et permettent de collecter plus d'informations avec des nouveaux astronautes, etc. Donc là, sur Pilote, on était sur une démonstration technologique. Donc elle s'est terminée avec Thomas, mais elle pourrait continuer si on a besoin de nouvelles infos.
D'accord, et bien on va continuer parce que donc maintenant tu t'occupes de la préparation de ce qu'on appelle la mission Spaceship. Alors ça concerne le retour sur la Lune et puis après éventuellement sur Mars. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites actuellement ?
Ah oui, alors voilà, il faut penser que les nouvelles ambitions des agences spatiales maintenant, c'est de retourner sur la Lune dans l'objectif d'aller vers Mars. C'est le programme Artemis de la NASA. Donc, si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a déjà eu Artemis 1 qui a été, l'année dernière, en fait, la capsule Orion qui est retournée faire le tour de la Lune et qui nous a démontré qu'on était capable de revenir sur la Lune. Et l'idée maintenant, c'est Artemis 2 et 3, c'est de renvoyer des équipages. Donc, l'équipage prochain a déjà été sélectionné pour faire le tour de la Lune. Donc ça va être 3 astronautes NASA, un astronaute canadien, je crois, dont une femme. Normalement, ça devrait arriver l'année prochaine ou l'année d'après, hein, le retour sur la Lune. L'idée, c'est de, dans le futur, avoir une présence permanente sur la Lune.
Oui, c'est pas seulement de rebondir pour aller sur Mars. Il y a aussi avoir un observatoire sur la Lune, une station.
Exactement. Et cette station, en fait, ce serait un démonstrateur de ce qu'on va, une base lunaire en fait qui pourrait fonctionner en autonomie, etc., pour démontrer qu'on pourrait le faire sur Mars. Ça va être notre test en fait. On se sert de la Lune pour démontrer Mars.
Alors Mars, c'est donc ensuite prévu, j'imagine, moi, candide, que ça ne va pas être très facile quand même d'aller vers Mars parce que c'est beaucoup plus long et les astronautes, ils ont les problèmes dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire la décalcification osseuse, par exemple, aussi les radiations et tout ça. Et ils ont des suivis, les astronautes de la Station Spatiale Internationale, des suivis sur Terre de médecins. Et s'ils vont sur Mars, ben, ils n'auront plus de suivi. Puis quand ils arrivent là-bas, ils n'auront pas d'hôpital ou quoi que ce soit. Et en plus, il faudra qu'ils travaillent pour construire quelque chose. Donc, moi, a priori, ça ne me semble pas évident. Donc, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que tu penses de cet avenir ?
Oui, alors c'est une très bonne question, Sylvie. Et c'est pour ça qu'on a les projets comme le Spaceship. En fait, on a vraiment des nouveaux enjeux pour maintenir la santé des astronautes sur ces futures bases martiennes. Et c'est des enjeux qu'on n'a pas sur l'ISS, parce que comme tu l'expliquais bien, aujourd'hui, dans l'ISS, elle n'est pas loin de la Terre, elle est à 400 km au-dessus de nos têtes. S'il y a un quelconque problème de santé, on rapatrie l'astronaute sur Terre. C'est déjà d'ailleurs arrivé à plusieurs reprises. Et pour le suivi de la santé, il y a un suivi hebdomadaire par les médecins au sol qui suivent les astronautes. Donc il y a toujours un médecin dédié pour un astronaute et qui connaît tout son état de santé, son évolution. L'astronaute peut se reposer sur son médecin en tout temps, etc. Ça, on va partir sur Mars, on n'aura plus du tout cette option-là. Parce que déjà, il y aura des délais de communication, donc on ne pourra pas faire une petite téléconférence avec son médecin.
Ça va être plusieurs heures ?
Ça, oui, alors c'est anticipé autour de 45 minutes, dépendamment des configurations, hein, Terre-Mars. Il y aura aussi des zones d'ombre où il n'y aura carrément pas de communication. Donc en fait, on a vraiment un enjeu autour de l'autonomie des astronautes pour le maintien de leur santé. Voilà, on n'aura pas cette possibilité non plus d'évacuer en cas d'urgence, c'est-à-dire quand on est parti pour la mission martienne, s'il y a une appendicite jour 2, on va devoir gérer l'appendicite pendant le vol, parce qu'on ne fait pas demi-tour sur une mission martienne. Voilà, donc plein de nouveaux enjeux pour la santé. Effectivement, ça paraît pas évident. On a aussi des enjeux du fait qu'on part sur de la longue durée. Les missions martiennes, elles sont anticipées autour de 3 ans, avec le vol, le fait de rester là-bas, le fait de revenir. Donc des thématiques autour de la santé mentale, du bien-être, le fait qu'on va voir la Terre disparaître et devenir une toute petite étoile.
C'est sûr que psychologiquement, je suppose qu'il y a un suivi psychologique aussi important.
Voilà, en tout cas, on anticipe un besoin de gérer la psychologie. Chose qu'on, dans l'ISS, c'est pas vraiment un problème, dans le sens où les astronautes peuvent faire un petit appel ou un petit Skype avec leur famille au besoin. Des fois, ils reçoivent dans les cargos, parce qu'on reçoit des cargos tous les mois dans l'ISS, ils peuvent recevoir des petits cadeaux de leur famille, des choses comme ça. Donc, c'est très différent sur les enjeux. Voilà.
Et alors, en se projetant vers l'avenir, une échelle de temps, de quand on sera prêt à aller sur Mars, c'est, vous le savez pas encore, je pense.
Alors en fait, il y a une espèce de programmatique, hein, forcément, on vise 2040. Est-ce qu'on va y arriver?
Et puis alors ceux-là, ils vont revenir. Ils vont aller sur Mars, ils vont revenir. Parce qu'on avait entendu parler de, comment dire, d'idées de missions privées, d'aller sur Mars sans revenir. Hein, les gens ont entendu parler de ça
Ah oui, non.
récemment.
Alors
Tandis
sur...
que quand c'est officiel, scientifique, c'est un aller-retour, évidemment.
Bien sûr. Alors là, l'idée, on va dire les designs de mission, c'est on envoie un équipage, on anticipe un équipage de 6 personnes. Après, ça sera peut-être amené à changer, mais avec au moins un médecin à l'intérieur. Et 6 mois de vol aller, une durée sur place qui va dépendre de la configuration des planètes. Et ensuite, 6 mois de vol retour, quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, il y a vraiment cette idée de les envoyer pour les faire revenir. On réfléchit au design de l'habitat là-bas. Est-ce que ça va être un habitat déployable? Parce qu'on part avec, il faut partir avec toutes nos ressources. On n'aura pas beaucoup de place dans ce cargo lunaire, non pas lunaire, martien
Cette sonde,
justement.
oui, cette
Voilà,
sonde spatiale, je ne sais pas quoi.
exactement.
Oui.
Donc quels habitats on va avoir? Est-ce qu'on va utiliser des sortes de grottes qui sont des grottes martiennes des tubes de lave, qui d'ailleurs nous permettraient apparemment de nous protéger des radiations? Parce qu'il faut savoir que les radiations sur Mars sont aujourd'hui
Ben
un
oui, il n'y
gros
a pas
point noir.
d'atmosphère, ou à peine d'atmosphère. Il y en a une, mais qui n'a rien
Voilà.
à voir avec la nôtre au point de vue densité.
Exactement. Et qui protège pas
Et il
du
n'y a pas de champ
tout.
magnétique.
Voilà. Donc, ça, c'est un gros point bloquant à l'heure actuelle. En tout cas, les astronautes vont être soumis à des radiations qu'on n'a pas dans l'ISS parce qu'on est protégé par la magnétosphère de la Terre. Donc, encore plein de questions, plein de briques technologiques à développer, mais c'est intéressant.
Eh ben voilà, je crois que ça fait rêver, même si c'est quelque chose qui sera pas facile du tout en réalité. Et merci Laure de nous avoir expliqué tout ça dans ces deux émissions. C'était passionnant. Bonne continuation. Au revoir.
Au revoir, avec grand plaisir.